VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Le président de la RDC, Joseph Kabila, annonce que son pays demandera officiellement dans quelques mois la restitution d'œuvres d'art congolais à son ancienne puissance coloniale, la Belgique. Et ce, dans des déclarations publiées ce vendredi par le quotidien belge Le Soir. Des vœux exprimés à la veille de la réouverture du musée royal de l'Afrique centrale à Tervuren, près de Bruxelles, qui abrite une des plus grandes collections d'art africain au monde. Tervuren possède un grand nombre de documents, nos archives que nous voudrions récupérer, a souligné le président Kabila en précisant que la demande de restitution sera formulée officiellement l'année prochaine en lien avec l'ouverture à Kinshasa d'un musée national construit en coopération avec la Corée du Sud. En novembre 2017, lors d'une visite à Ouagadougou, Burkina Faso, le président français Emmanuel Macron avait ouvert le débat sur la restitution du patrimoine artistique africain dont 85 à 90% se trouveraient hors d'Afrique. Il y a 2 semaines, après la remise d'un rapport d'experts concernant le patrimoine hébergé en France, le président Macron avait décidé de restituer sans tarder 26 œuvres réclamées par le Bénin. Le médecin congolais de la RDC, Denis Mukwege, la Yazidi, Nadia Mourad, ex-esclave des djihadistes, recevront lundi un prix Nobel de la paix qui braque la lumière sur ses crimes de guerre. Le gynécologue de 63 ans et la jeune irakienne de 25 ans sont attendus à Oslo en Norvège pour se voir remettre le Nobel qui leur a été attribué début octobre par le comité Nobel norvégien pour leurs efforts en vue de mettre fin à l'emploi des violences sexuelles en tant qu'armes de guerre. Le prix leur sera remis lors d'une cérémonie à l'hôtel de ville d'Oslo. Les Nobel des autres disciplines le seront le même jour à Stockholm, en Suède, sauf celui de littérature reporté à 2019 à cause d'un scandale de viol ayant secoué l'Académie suédoise. En République démocratique du Congo, les violences continuent dans l'est du pays. 17 civils ont été tués dans 2 massacres attribués aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, les ADF, dans la région de Beni, province du Nord Kivu, après le passage d'un candidat à la présidentielle. Le maire de Beni, Nyoni Masumbuko Bwanakana, affirme que 12 civils ont été exécutés à l'arme blanche hier par des ADF à Mango Dikene, dans la périphérie de Beni. Et la nuit dernière, 5 autres civils ont été tués par ces mêmes rebelles ougandais dans le quartier Païda, dans le nord-est de la ville. Et toujours en RDC, les 3 principaux candidats de la présidentielle du 23 décembre poursuivent leur campagne électorale. Après Beni et Butembo, Martin Fayulu, porte-étendard de la coalition d'opposition Lamuka, était jeudi soir à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, où il a prononcé un discours devant des milliers de personnes. Pour sa part, le ticket d'opposition Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe est à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, tandis qu'Emmanuel Ramazani Shadari, candidat de la coalition au pouvoir, a lui promis, lors d'un meeting à Mbandaka, dans l'ouest de la RDC, de mettre en prison les auteurs des détournements de deniers publics. Plus de détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Après ses succès populaires à Beni et Butembo, Martin Fayulu est arrivé jeudi soir à Goma. Devant une foule immense au terrain Afia, le candidat de la coalition Lamuka a sévèrement critiqué le règne de Joseph Kabila qui, selon lui, est caractérisé au Nord Kivu par l'insécurité et l'absence de l'état de droit. Martin Fayulu, qui avait promis la veille à la population de Beni de venir s'installer avec son gouvernement sur place s'il est élu président pour mettre fin aux tueries dans cette région. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe se sont eux adressés jeudi soir à la population de Bukavu, très mobilisée malgré l'heure tardive à laquelle s'est tenu ce meeting. Ils leur ont promis, une fois Félix Tshisekedi, le candidat du ticket UDPS-UNC élu président, d'améliorer les conditions de vie des militaires et policiers, de combattre l'insécurité et l'impunité et de ramener la sécurité dans le Grand Kivu. Pendant ce temps, Ramazani Shadari poursuit son opération séduction dans le Grand Équateur. Malgré une forte pluie, le candidat de la coalition au pouvoir a, dans un meeting devant une grande foule à Mbandaka, promis de s'investir dans la lutte contre le détournement des deniers publics s'il est élu. Je mettrai en prison toute personne, quel que soit son rang social, qui sera reconnue coupable de détournement, a promis le candidat du Front commun pour le Congo qui a fait de la corruption son cheval de bataille. Kinshasa, Thierry Kambouni de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Cameroun, le procès du leader séparatiste anglophone Julius Sissoko Ayuk-Tabe, accusé notamment de terrorisme et de sécession, a débuté hier au tribunal militaire de Yaoundé avant d'être renvoyé au 10 janvier. Les détails avec Nani Talani.
Président autoproclamé de l'Ambazonie, nom de l'État que les séparatistes veulent créer au Cameroun anglophone, Julius Sissoko Ayuk-Tabe a comparu pour la première fois depuis son arrestation au Nigeria et son extradition au Cameroun en janvier avec 46 autres personnes. Ils sont accusés d'apologie d'actes de terrorisme, sécession, financement d'actes de terrorisme, révolution, insurrection et hostilité contre la patrie. La présidente du tribunal militaire a renvoyé le procès au 10 janvier à la demande des avocats de la défense qui ont sollicité du temps pour prendre connaissance du dossier. Le parquet entend présenter 70 témoins à charge. Plus de 80 avocats anglophones et francophones assurent la défense des accusés. La justice camerounaise avait déjà rejeté en appel à la mi-novembre la demande de libération de M. Tabe. Depuis fin 2017, des séparatistes ont pris les armes dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, devenues le théâtre d'affrontements qui ont fait, selon certaines ONG, près de 500 morts.
Autre procès notable en Afrique centrale, au Tchad, l'ex-chef rebelle Mahamat Abdelkader, alias Babalade, a été condamné hier à 8 ans de prison ferme pour détention illégale d'armes, association de malfaiteurs, incendie volontaire et viol. Le point avec Morgane Guiriec.
Emprisonné depuis 2015, Babalade a été présenté hier pour la première fois au juge de la cour criminelle à N'Djamena. Entré en rébellion en 98 au Darfour, dans l'est du Soudan, Babalade, ou roi de la forêt en langue peul, s'était rendu en Centrafrique en 2008 où il disait vouloir libérer les éleveurs peul épaulés par Aline Daras, actuel chef de l'UPC, un des groupes armés centrafricains. Revenu au Tchad en 2013 comme conseiller du Premier ministre, puis nommé en 2014 préfet de la Grande Sido dans le Sud, avant d'être démis de ses fonctions, il va se réfugier en Centrafrique où il a été accusé de nombreuses exactions. Arrêté en décembre 2014, Babalade a été extradé un mois après vers le Tchad pour être inculpé. Il n'a donc pas bénéficié de l'amnistie décrétée en mai par le président Idriss Déby Itno. En août dernier, son état de santé a inquiété Dobiang Asingar, représentant de la FIDH, mais le ministre de la Justice avait rejeté toute forme de maltraitance à la maison d'arrêt. Babalade a déjà passé plusieurs années au bagne de Korotoro, dans le nord désertique, connu comme le lieu de détention le plus difficile du Tchad.
À Afrique de l'Ouest maintenant, deux policiers burkinabés ont été tués lors d'une embuscade jeudi dans le nord-ouest du Burkina Faso. C'est ce que rapportent aujourd'hui des sources policières. L'attaque qui a eu lieu à Gouyalé est le 4e affrontement en une semaine entre forces de l'ordre et djihadistes présumés dans le pays. Sommet du G5 Sahel en Mauritanie, objectif atteint et même dépassé à Nouakchott. Les partenaires du G5 Sahel ont porté jeudi à 2,4 milliards d'euros leur aide pour la mise en œuvre d'une quarantaine de projets de développement destinés à endiguer les violences djihadistes au Sahel. 127% de l'objectif de mobilisation initiale, précise l'organisation régionale dans un communiqué publié à l'issue de la conférence de donateurs. Actualité américaine, les États-Unis veulent poser des conditions drastiques à un éventuel financement par l'ONU de futures opérations de paix africaines. La Côte d'Ivoire souhaite l'adoption d'une résolution la semaine prochaine sur ce dossier. Abdourahman Dia.
Ce projet des trois pays membres africains du Conseil de sécurité, Éthiopie, Guinée équatoriale et Côte d'Ivoire, prévoit que l'ONU puisse financer au cas par cas à hauteur de 75% les opérations de maintien de la paix en Afrique. La proposition est soutenue par la France et la Chine. Pour ses concepteurs, le projet vise à avoir une résolution cadre qui fixe le principe d'un cofinancement pour l'avenir. Ensuite, il y aura des projets en fonction des missions avec un mandat de l'Union africaine endossé par une résolution du Conseil de sécurité, selon un diplomate. Parmi ces conditions, Washington demande que l'Union africaine fournisse un rapport au Conseil de sécurité d'ici 6 mois sur ses efforts pour protéger les droits humains, renforcer ses capacités de financement et améliorer la discipline de ses troupes. Les États-Unis réclament aussi que le secrétaire général de l'ONU fasse ensuite un rapport sur la capacité de l'Union africaine à mener de futures opérations de maintien de la paix sur la base de normes équivalentes à celles qui prévalent pour les opérations de maintien de la paix de l'ONU actuelle en Afrique. Washington est le premier contributeur financier à l'ONU et cherche à réduire ses dépenses.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.